DW, le club de l'auditeur.
Un foyer sur sept en Amérique et plus d'un sur cinq dans les foyers noirs et latinos rapportent qu'ils n'ont pas assez à manger. Ce sont presque 30 millions d'adultes et 12 millions d'enfants et ils n'y sont pour rien. C'est scandaleux, a déclaré Joe Biden, le tout nouveau président américain âgé de 78 ans. Alors, quel changement va apporter le nouveau locataire de la Maison-Blanche aux États-Unis, mais aussi dans le monde? Et quelles sont vos attentes? C'est le sujet de ce club à votre écoute et votre service, animé par Mireille Drone, comme tous les samedis à 17h et tous les dimanches à 7h, temps universel, sur les ondes de la DW. Bienvenue à toutes et à tous! Un grand bonjour à Yvan de Cincinnati dans l'Ohio aux États-Unis, à Nouarif de Sétif en Algérie, Fali de Dakar au Sénégal, Abdourahman de Boké en Guinée, Richmond de Bouaké en Côte d'Ivoire, Boukari de Bamako au Mali, Idriss de Lomé au Togo, Romaric de Bangui en Centrafrique et Lazare de Calémier en RDC. Et puis nos meilleurs vœux à tous ceux qui ont fêté ces derniers jours leur anniversaire, comme Soulfat et Yasfir, tous les deux d'Abomey-Calavi au Bénin, Sidou d'Anoumaba en Côte d'Ivoire et James de Goma en RDC.
L'Amérique, c'est le pilier du monde. Donc, si par lui, on peut avoir la paix dans le monde, nous bénissons Dieu.
L'Amérique, pilier du monde, qui peut contribuer à apporter la paix, comme le dit Franck d'Abidjan, c'est l'espoir que caressent nombre d'entre vous. Certains se disent en tout cas soulagés du départ de Donald Trump, comme Latif du Togo. Le fou a quitté la Maison Blanche, c'est un soulagement dans le monde entier, affirme-t-il. La liberté a triomphé sur l'argent, bravo à Joe Biden, nous dit François de Kinshasa. Biden a mérité ce poste, il fera mieux que l'homme orange, pense Éloge de RDC également, et s'il a deux Conakry, en Guinée, présume que ce 46e président des États-Unis va changer beaucoup de choses dans son pays où il y a beaucoup à faire et lui souhaite bon courage. Alors, à peine installé à la Maison-Blanche, Joe Biden a dressé vendredi un sombre tableau de la crise économique et sanitaire qui empire aux États-Unis. Il a signé des premiers décrets promettant une aide immédiate aux millions d'Américains sans emploi qui ont faim, entre autres. À New York, la Marane, auditeur fidèle, a suivi avec intérêt mercredi dernier la prestation de serment du nouveau président qui a multiplié les appels à l'unité dans ce pays déchiré et traversé par des crises profondes.
Le nouveau président a tenu un discours vraiment, un discours rassembleur, un discours que nous pensons il va relever tous les défis auxquels le pays est confronté. Vous savez que pendant les quatre dernières années, il y avait la division au sein de cette nation.
Oui.
Et maintenant, nous pensons que le président qui est venu, c'est quelqu'un qui est pétri de beaucoup d'expérience. Il a été longtemps sénateur et 8 ans vice-président de Barack Obama. Maintenant, il a eu à former une équipe. Vous savez, ici, c'est pas comme dans les autres pays africains. L'équipe est restreinte, mais c'est une équipe aussi diverse. Il a tenu compte de la diversité des États-Unis pour composer son équipe. C'est une équipe aussi qui est pleine de compétences. Nous pensons que cette équipe va relever tous les défis auxquels les États-Unis sont confrontés.
Parce qu'elle représente à la fois la diversité des États-Unis et aussi les capacités, les compétences de chacun, vous pensez, pour régler tous les problèmes qui sont quand même énormes, évidemment.
Bon, on ne peut pas dire qu'on peut régler tous les problèmes des États-Unis pendant ces 100 premiers jours ou bien pendant ces 4 prochaines années.
Oui.
Mais quand même, j'estime très bien que beaucoup de problèmes trouveront leur solution.
Et d'après vous, justement, quelles sont les priorités? Quels sont les problèmes les plus urgents à régler aux États-Unis?
Bon, je pense qu'il y a d'abord la crise sanitaire. Vous savez que oui. Le COVID-19 a beaucoup frappé les États-Unis de plein fouet.
Bien sûr.
Nous avons eu beaucoup plus de victimes que partout dans le monde.
Oui.
Et par jour, aujourd'hui, nous sommes à entre 3000 et 4000 décès par jour. Et il y a plus de 200 000 cas de contamination par jour. Donc ça, c'est l'un des défis auxquels le président et son équipe vont faire face Ensuite, nous avons le problème de la crise économique. Essayer d'assister les familles et de redonner de l'espoir aux travailleurs. Et ensuite, il y a d'autres priorités en ce qui concerne le climat, les relations entre les États-Unis et les institutions internationales et d'autres pays encore.
Oui, justement, dans son message à Joe Biden, le président Macron a souhaité justement que les efforts sur le climat soient relancés. Vous pensez en effet que ça va être une priorité du gouvernement Biden?
Oui, c'est l'une des priorités. Vous savez que l'accord de Paris, les États-Unis faisaient partie et une fois Trump à la Maison-Blanche, il avait retiré les États-Unis de cet accord.
Absolument, oui.
Je pense que ça ne va pas tarder. Il va essayer de réintégrer les États-Unis dans les accords de Paris pour que vraiment que le monde puisse analyser quelles sont les solutions qu'on va essayer de trouver afin que ce monde d'aujourd'hui et de demain soit vivable.
Et alors, il y avait aussi la question, bien entendu, qui a bouleversé le monde entier, du racisme, évidemment, latent, de la police, des violences policières aux États-Unis. Vous pensez que cette question aussi, ce problème structurel, va être abordé?
Oui, le problème de racisme, les violences policières, ça c'est un problème qui va être abordé. Je pense que aussi là, nous comptons avoir des solutions. Vous savez que le racisme, c'est un phénomène qui a la vie dure. Il n'est pas facile de le combattre d'un seul coup.
Bien sûr.
Mais quand même, nous pensons que ça va beaucoup diminuer.
Le fait même qu'il y ait des membres des différentes communautés, vous pensez que ça peut influencer justement les mentalités?
Oui, ça va influencer les mentalités. Vous savez que c'est un problème structurel. Je pense qu'ils vont essayer de s'organiser afin que ce problème-là vraiment soit résolu.
Oui. Et alors, vous, en tant qu'originaire d'Afrique, la Marane, qu'est-ce que vous attendez justement du président en ce qui concerne la politique étrangère et notamment l'Afrique? Il a déjà annoncé un petit peu la couleur en disant que voilà et qu'il reconnaissait l'importance de la communauté africaine, notamment aux États-Unis, et avoir plus de respect aussi vis-à-vis de ceux qui sont originaires du continent africain. Vous espérez justement qu'il y ait une d'autres relations plus d'égal à égal, de respect mutuel avec lui?
Oui, je pense à ce niveau que les États-Unis vont essayer de rétablir les relations entre eux et les pays africains. Vous savez qu'au temps d'Obama, il y avait... Obama s'était organisé de sorte qu'à chaque année que des jeunes étudiants africains puissent bénéficier de bourses pour venir séjourner dans les universités américaines.
Oui, le programme Yali.
Voilà, donc je pense que ce programme-là va être rétabli et ensuite les relations vont continuer entre l'Afrique et les États-Unis. Je souhaiterais seulement que le nouveau président des États-Unis puisse avoir un œil attentif en ce qui concerne les processus démocratiques en Afrique qui souffre actuellement beaucoup.
Oui, c'est ce que souhaitent certains auditeurs, mais d'autres, d'un autre côté, disent finalement chacun doit se mêler de ses affaires. Et certains disent, voilà, c'est ce qu'on aimait chez Trump, c'est qu'il n'aimait pas les Africains, mais au moins, il ne se mêlait pas de nos affaires.
Ça, bon, je pense que chacun a sa conception de la chose, mais je suis optimiste que ça va aller avec les démocrates pendant les prochaines années.
Oui. Et vous pensez donc du coup que il y aura aussi une révision des restrictions de visa pour les ressortissants de certains pays africains?
Oui, ça c'est clair, ça c'est clair. Le président même, parce que vous savez qu'il y a certains pays africains qui ont été suspendus pour l'octroi des visas. Je pense que Joe Biden, ça c'est parmi ses priorités.
Très bien. Et donc, vous pensez qu'il y a un assez fort engouement de façon générale pour cette élection, pour cette arrivée au pouvoir de Joe Biden? Parce que certains aussi disent, bon, ben voilà, on avait vu Barack Obama et puis finalement, on a été déçus parce que ce soit sur le plan international, les guerres, ainsi de suite, dans le monde, ou même sur le plan intérieur, il n'a pas fait autant qu'on aurait souhaité, par exemple.
Oui, bon, vous savez que la politique, ce n'est pas une chose facile. Quand on est dehors, on peut penser que tout est possible, tout est faisable. Mais une fois à l'intérieur, vous allez voir qu'il y a des obstacles. C'est un système, que ça soit démocrate, que ça soit républicain. Et tous, ils se comprennent sur une chose avant d'agir. Vous savez qu'ici, que toutes les choses se passent au niveau d'abord du Congrès et du Congrès aussi, ça passe au niveau du Sénat avant que le président ne prenne un engagement ou un acte.
Oui, d'accord. Très bien. Mais je vous remercie beaucoup, Lamarane.
Oui, je vous en prie, je vous en prie. Alors, portez-vous bien.
Merci
portez-vous
beaucoup, bien. Merci vous beaucoup. Aussi, surtout. Hein. Prenez pas de risques. Hein.
Ok, ok.
Allez,
merci beaucoup.
Courage.
Soin de vous.
Merci. Merci, au revoir.
Bye bye.
Il faut agir maintenant, a insisté vendredi Joe Biden, qui a énoncé ses priorités à coup de décision présidentielle. Il a déjà signé plusieurs décrets visant notamment une hausse de l'aide alimentaire dans le pays et un renforcement des droits sociaux. Pour la première fois dans l'histoire, une femme accède à la vice-présidence de la première puissance mondiale. Il s'agit de Kamala Harris, dont le père est d'origine jamaïcaine et la mère indienne d'origine. L'ex-général Lloyd Austin, dont la nomination au poste de ministre américain de la Défense a été confirmée ce vendredi, devient le premier afro-américain à diriger le Pentagone. Si son rôle est confirmé par le Sénat, Deb Haaland, choisie comme secrétaire à l'intérieur, deviendra la première amérindienne de l'histoire à occuper un poste ministériel. Et Miguel Cardona, dont les parents sont originaires du territoire américain de Porto Rico, devrait devenir secrétaire à l'éducation. Une diversité qui réjouit Yasmine de Ouagadougou au Burkina Faso. Elle espère, entre autres, que les Afro-Américains seront moins marginalisés.
Bon, je trouve que, surtout étant femme musulmane, avec les nouvelles mesures, j'ai entendu parler qu'il avait aboli certaines mesures sur les pays musulmans. Bon, je suis heureuse, quoi.
Parce que vous vous sentiez frustrée ou malmenée par la politique de Donald Trump avant et sa position envers les musulmans et envers les Africains?
Bon, personnellement, je n'étais pas contente, mais bon.
Mais vous vous réjouissez quand même qu'il y ait un changement?
Oui, très réjouie.
À la tête de la première puissance du monde?
Oui, très bien.
Et qu'est-ce que vous espérez, justement?
Bon, j'espère qu'il y aura maintenant moins de racisme et moins de sévérité envers les pays musulmans et autres.
Oui, parce que le racisme à l'intérieur du pays, ça vous a beaucoup touché? Est-ce que vous avez par hasard des parents ou des amis qui sont là-bas, par exemple?
Non, pas trop, mais le fait que j'ai la peau noire déjà,
oui,
ça me concerne.
Bien sûr.
On pouvait un peu mettre fin à la discrimination, vous voyez, le racisme, quoi.
Oui. Les violences policières, vous voulez dire, ou de façon générale, le racisme structurel,
ouais,
presque?
De façon générale. De façon générale.
Et vous pensez que Joe Biden, par le fait même qu'il ait, par exemple, une vice-présidente en la personne de Kamala Harris, que ça va changer les choses?
Ah, j'espère bien. Je pense bien que ça ne sera pas comme Trump, en tout cas. On espère vraiment un changement.
Surtout en ce qui concerne le racisme ou aussi en ce qui concerne la politique américaine dans le monde ou vis-à-vis des relations avec l'Afrique, par exemple?
Bon, en général, dans le monde, hein, on a vraiment beaucoup appris, surtout la violence policière. Vous savez, tout le monde a été marqué par la mort de notre confrère africain, vous voyez?
Bien sûr.
Donc, si cela pouvait vraiment s'abolir, ça nous ferait vraiment plaisir.
Oui. Vous pensez que donc l'équipe aussi qui est derrière Joe Biden, dont Kamala Harris, qui est l'ex-sénatrice noire et d'origine indienne, vous pensez qu'ils peuvent contribuer justement à mener cette politique contre le racisme et donner une autre vision?
Personnellement, je leur fais confiance, même si je n'ai pas encore vu leurs compétences, je leur fais vraiment confiance.
Oui. Et dans quelle mesure vous pensez souhaitable ou non, justement, que les États-Unis, par exemple, s'investissent dans certaines régions d'Afrique, par exemple, à propos de la sécurité, contre le terrorisme, tout ça? Est-ce que vous pensez qu'ils ont un rôle à jouer ou est-ce que vous pensez que ce sont les pays africains eux-mêmes qui doivent régler ces problèmes et que les puissances extérieures doivent rester chez elles?
Bon, personnellement, je pense qu'il devait avoir l'entraide, quoi.
Oui.
Parce que nous sommes plus forts ensemble. Je me disais que côté armée, les États-Unis sont un peu, comment dire, très bien développés par rapport aux pays africains.
Oui.
Donc, avec des fournissements d'armes un peu sophistiqués, je dirais que les terroristes ont souvent des armes que même l'armée des armées burkinabées n'ont pas.
Oui.
Vous voyez?
Oui.
Donc, si on pouvait un peu fournir aux pays africains des armes un peu sophistiquées pour mieux se protéger, ça serait très bien. Sinon, être seul à combattre le terrorisme, on est tous visés en fait. On ne peut pas dire ça n'arrive qu'aux autres pays, on est protégé. Donc, l'entraide serait la meilleure solution.
Parce qu'il y a quand même une certaine méfiance dans certains pays, aussi au Niger, au Mali, ainsi de suite, en ce qui concerne quand même la présence de troupes étrangères.
Oh, vraiment. Selon certaines rumeurs, il paraît que, bon, les pays qui semblent aider sont souvent responsables des terroristes, mais personnellement, je ne crois pas. Je ne crois pas à l'hypocrisie, en fait.
Vous souhaitez une coopération, vous?
Oui, une coopération très sincère.
Il y a aussi un autre sujet qui a été un petit peu occulté ces derniers temps, c'est le climat, bien entendu, qui est une épée de Damoclès qui plane sur toutes nos têtes dans le monde entier. Est-ce que vous pensez que, du coup, là aussi, il pourrait y avoir un changement? Ce serait souhaitable que les États-Unis s'engagent plus pour le climat?
Oui, personnellement. Oui, beaucoup. Les États-Unis pourraient mieux faire. Je pense qu'on pourrait, comment dire, avoir une organisation de lutte contre la production des sachets plastiques, vous voyez, puisque ça ne se dégrade pas, ça reste dans la nature.
Oui.
Donc, dans les pays africains, on remarque trop de sachets plastiques, d'ordures, et les Africains ils vivent comme ils veulent, ça jette les ordures partout. Donc, si on pouvait adopter des mesures pour mieux adopter des propriétés, un peu, vous voyez, non?
Oui.
Des mesures de propriété.
Oui. Et lutter contre le réchauffement climatique aussi, qui a un rôle très important sur les cultures et tout ça, et qui est dû aux émissions de gaz, par exemple.
Voilà, c'est ça. Surtout les usines et autres. Les fumées qui s'échappent, et surtout dans les villes, les motos, ça laisse échapper les fumées. Ça dérange même les gens qui circulent et aussi le climat. Et aussi les populations, comment dire, les paysans et autres, ça pratique les techniques de la terre brûlée, ça brûle les forêts, donc la fumée, autre quoi, tout ça, ça dégrade le climat. Donc, comment dire, on pourrait sensibiliser un peu sur les mesures, comment dire, éviter de brûler, puisque ça détruit vraiment notre climat, la couche d'ozone.
Bien sûr. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Yasmine, et bonne soirée à vous.
Merci à vous de même.
Merci.
Plaisir.
Au revoir.
Au revoir.
L'arrivée de Joe Biden a suscité sur la scène internationale un large espoir d'un retour des États-Unis au multilatéralisme en rupture avec son prédécesseur Donald Trump. Les États-Unis ont certes continué à soutenir le combat anti-djihadiste au Sahel, par exemple, dans les domaines du renseignement, de la logistique ou de la formation, mais envisagé une réduction de leur engagement. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, espère de la nouvelle administration américaine la poursuite d'un soutien fort aux opérations de paix et une attention forte pour la crise au Sahel. Certains d'entre vous ne sont pas du tout convaincus par le nouveau président des États-Unis, comme Mohamed Mbougimaï en RDC ou Yembe de Yaoundé au Cameroun. Selon lui, les Américains ont commis une erreur en élisant Joe Biden. Mais beaucoup espèrent qu'il apportera de bonnes choses pour l'Afrique. C'est le cas de David de Bounia en RDC ou de Mamadou de Ségou au Mali qui compte sur lui pour qu'il soit réceptif aux problèmes du continent africain. De Goma, dans l'est de la RDC, David souhaite que le nouveau gouvernement à Washington défende les intérêts des Américains, mais aussi le monde entier en général, après le bilan négatif de Donald Trump qui n'a pas honoré ses promesses.
Vraiment contenu de la façon dont il avait travaillé avec M. Obama, l'ex-président des États-Unis. Vraiment, il mérite, disons.
Oui. Et qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire maintenant? Vous écriviez qu'il va pouvoir jouer son rôle et mettre en place et en forme ce que Donald Trump n'a pas pu faire. C'est-à-dire, par exemple...
Au fait, je suis africain. Mais nous essayons quand même de voir ce qui ne marche pas ou ce qui déstabilise, disons, le pouvoir. Vraiment, comme a fait l'ex-président Barack Obama, comme il était son vice-président, je pense qu'il va aussi essayer de changer ou d'améliorer ce qu'il n'a pas pu faire, comme Trump essayer de manipuler, disons, la population ou mentir qu'il va changer ou développer. Mais durant son mandat, il n'y a pas eu de changement quand même.
Oui. Et quel changement vous souhaiteriez?
Bon, ce qui compte, c'est de pouvoir donner la démocratie à la population.
Oui, aux États-Unis, vous voulez dire?
Oui, comme au monde entier, parce que vous connaissez que les États-Unis marchent compte tenu du pouvoir global, disons.
Et vous disiez aussi que vous souhaiteriez qu'ils ne servent pas que l'intérêt des Américains seuls, mais plutôt de tout le monde démocrate. C'est-à-dire, vous pensez qu'il faudrait que les États-Unis, par exemple, interviennent ou fassent pression sur des présidents qui ne sont pas démocrates ailleurs?
Oui, évidemment, madame.
Ah ben, c'est pas évident. Il y en a qui trouvent que chacun doit rester chez soi et s'occuper de ses affaires.
Oui.
Donc vous aimeriez que le président des États-Unis mette un peu la pression sur certains dirigeants africains, par exemple?
Oui, vraiment, ça serait souhaitable.
Et en ce qui concerne la RDC, par exemple, l'est du pays, par chez vous, qui est quand même une région un peu instable, est-ce que vous pensez que les États-Unis devraient jouer un rôle, par exemple, ou lequel?
Surtout comme ceci des massacres, vous connaissez qu'à l'est du pays, disons de la RDC, il y a trop de massacres, particulièrement à Beni, comme vous le savez, via les réseaux sociaux. Vraiment, la population n'est pas en paix, disons.
Et vous aimeriez...
Donc, s'il y aurait l'intervention des États-Unis, aussi fournir la sécurité, ça pourrait garantir quand même la population à vivre paisiblement.
Oui. Et comment garantir la sécurité, selon vous? Comment ils devraient s'investir, les États-Unis?
Donc, c'est chercher tous les moyens de comment désarmer des troupes de rébellion. C'est ça, je pense.
Parce qu'il y a aussi des Congolais, entre autres, qui disent que les États-Unis, comme d'autres pays occidentaux, sont juste intéressés par les richesses du sol et du sous-sol congolais et que justement, ça attise les conflits.
Donc ça, je pense, c'est que le président aussi, Félix Tshisekedi, tu pouvais faire tous les moyens possibles, donc de voir comment la RDC elle-même peut exploiter sa richesse au lieu de l'exporter. Maintenant, on l'exploite à partir du pays.
Et à ce moment-là, indépendamment plutôt des États-Unis, alors?
Non, disons, via les idées, ce que peut contribuer les États-Unis, quand même, ça peut aider la RDC à se développer, aussi à gérer ses problèmes.
Vous pensez que ce n'est pas dangereux qu'il y ait une certaine dépendance d'un pays comme les États-Unis, par exemple?
Non, ce n'est pas trop dangereux. Bon, ça pourra dépendre de la façon que les États-Unis veulent aider la RDC.
Et est-ce que vous pensez aussi que sur des grandes questions mondiales comme le climat, par exemple, les États-Unis devraient plus s'engager?
Bon, là, je compte pas beaucoup là-bas, madame.
Vous comptez pas sur eux pour ça?
Bon, ça serait mieux.
Mais vous pensez que ce n'est pas dans leur intérêt?
Non, je pense qu'ils devraient travailler à l'intérêt de la population.
Et Joe Biden, le nouveau président des États-Unis, il a dit qu'il allait relancer un petit peu l'initiative de Barack Obama sur les Young African Leaders, les jeunes leaders africains. C'est-à-dire, c'est un programme qui permettrait à des jeunes Africains d'obtenir une bourse et d'aller séjourner dans des universités américaines. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait, ça, par exemple?
Oui, ça m'intéresse beaucoup. Si je pouvais avoir cette chance de participer à cette opportunité, vraiment, ça me ferait du plaisir. Ça peut quand même nous aider, nous, comme Africains, quand on trouve cette opportunité. Vous connaissez que parfois nous manquons même comment étudier, comment développer des idées dont nous avons qui peuvent nous aider à progresser.
D'accord. Donc, on va suivre. En tout cas, je vous remercie, David. Je vous souhaite bon courage et beaucoup de succès alors dans vos études.
Merci beaucoup, madame. C'est moi qui vous remercie.
Au revoir.
Au revoir. Bye.
De son côté, Christophe de Kinshasa appelle de ses voeux un changement en matière de politique migratoire des Africains vers les États-Unis. Et Karim du Burkina Faso souhaite que la nouvelle administration américaine s'inscrive dans les intérêts américains et le multilatéralisme et surtout le respect de la souveraineté des autres États dans le monde. Voilà, vous pouvez réagir à cette émission en m'envoyant par exemple un mail à l'adresse suivante mireille.drone@dw.com. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver ce club, comme tous nos magazines, en podcast, dans la rubrique médiathèque en allant sur internet. Notre adresse, c'est dw.com/français-sans-cédille. Vous y trouverez aussi les liens vers nos pages Facebook et Twitter. Au plaisir de vous lire, excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir.